Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Bariotte.
C'est le printemps, les amis. Merci d'être là. Et comme tous les samedis, nous allons partager le meilleur du bon jusqu'à midi et demi. Alors, vous avez remarqué, hein, les asperges et les fraises débarquent sur nos étals. C'est une saison inspirante, hein, pour nos chefs cuisiniers. C'est ce que nous allons entendre avec le dossier spécial Cuisine de chef réalisé par nos amis du hors-série cuisine de Madame Figaro. Elle sera là, Madame Figaro, oui. Nous irons aussi faire un tour dans les arrières-cuisines de l'élevage intensif en Bretagne avec la journaliste Morgane Large. Un dossier passionnant, vous verrez, sur l'agriculture bretonne. Et c'est le moment d'accueillir mes bons vivants, heureux et en forme. Voici le premier. Chef d'orchestre devant son piano de cuisson, il célèbre le sacre du printemps avec une asperge en guise de baguette. Vous l'avez reconnu, c'est Yves Candebord. Bonjour Yves.
Alors Laurent, c'est pas des baguettes, c'est des couteaux et des fourchettes.
C'est vrai aussi.
Ouais, c'est vrai aussi.
Mais l'asperge, une belle asperge, on est content quand même,
oui. Hein,
pour mener la cadence. Il revient d'une semaine de dégustation dans le Bordelais. Il a eu la primeur de déguster les dernières cuvées. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour les amis, et je peux déjà vous annoncer que dès la semaine prochaine, je vous ferai partager mes coups de cœur.
Ben on va se gêner. Alors, vous êtes à distance exceptionnellement aujourd'hui. Vous serez avec nous en studio la semaine prochaine, mais vous êtes avec nous évidemment jusqu'à midi et demi. Et sur les coups de midi, l'écrivain et comédien Christophe Bourseiller va partager un joli plat de poireaux carbonara. Mamma mia! Alors, petit rituel, hein, vous connaissez la tradition, vous qui nous écoutez chaque samedi. Au passage, j'en profite encore pour vous remercier de votre fidélité. Hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque samedi. Alors, à la maison, en voiture, en écoutant le podcast, posez-vous la question, quel est votre goût de la semaine? Je commence par vous, tiens Yves.
Allez, moi je vais dire andouillette, mais pas n'importe laquelle. Andouillette de Loris, de la charcuterie Pourcin. C'est une andouillette où il n'y a pas de tripes, c'est de la gorge, de la langue... et de l'estomac, des gros morceaux. Et c'est une andouillette qui, voilà, on est habitué à voir les andouillettes souvent qui ont la puissance, voilà, la puissance de la tripe.
Ce côté très fort qui peut être un peu désagréable parfois. Oui.
Tandis que là, on croque dans du moelleux, on croque dans l'onctueux, on croque dans du doux. C'est une andouillette qui est tout en douceur.
Olivier, votre goût de la semaine depuis votre belle Bourgogne?
Eh bien, comme nous venons de le dire, j'ai eu la chance de passer une semaine passionnante à Bordeaux à déguster le dernier millésime, c'est-à-dire le 2020. Mais j'ai aussi eu l'occasion de faire quelques passionnantes descentes de cave et j'ai été très ému par un château Cantemerle en 1955. Alors, vous allez me dire,
ah bah dites
donc, 1955, oui, c'est plus trouvable.
On peut être ému. Hein.
On peut être ému. Alors, c'est toujours très émouvant, évidemment, de goûter une époque. Mais ça dit deux choses. Ça dit la première que les grands vins de Bordeaux sont quand même franchement immortels et que voir un vin aussi fringant après 60 ans, c'est vraiment passionnant. Et puis surtout, Château Cantemerle n'est pas un vin inaccessible. Ça vaut autour de 25€ dans les millésimes récents. Et quand vous achetez ça et que vous avez la promesse de pouvoir le garder 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, eh bien vous achetez quand même un savoir-faire unique.
Eh oui, le goût d'une époque, comme vous dites. Alors, eh oui. Mon goût de la semaine, moi, c'est un sauté de veau aux olives avec des câpres. J'ai fait ça à Degenais avec un camarade qui est venu à la maison. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Un camarade avec qui j'avais fait une école de radio il y a très longtemps. Et sauté de veau aux olives et aux câpres, figurez-vous, avec une pulpe de tomate que j'ai achetée bio, toute simple dans le commerce, de l'ail, des oignons. Et habituellement, à la fin, je mets de la grémolata, vous savez, par-dessus. C'est ce petit condiment italien avec du persil haché, avec de l'ail et du citron. J'avais même pas le temps de le faire et j'ai remplacé tout ça par du basilic ciselé. Et il y avait ce petit côté citronné qui fait l'affaire. Voilà, sauté de veau aux olives et aux câpres, c'est bon le veau aussi.
Et c'est vrai que les câpres, je dirais à la maison, on les utilise rarement, mais c'est un condiment qui est très pertinent et très agréable.
Et ben voilà, cuisinez les amis, c'est le week-end, profitez-en. Alors il est 11h passé, c'est l'heure d'aller au marché, direction celui d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes. Frédéric Michel, vous savez, notre correspondant dans la région, a glissé son micro dans vos paniers. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? les premières courgettes. Tiens, tiens, si, si, écoutez.
Ça sent le printemps. Moi, je ne suis pas d'ici, je viens de l'Est, alors c'est d'autant plus marquant parce qu'ici, les légumes sont déjà bien plus avancés que chez nous.
Les couleurs, elles sont vives, ouais, elles sont fraîches. Franchement, ouais, ça, on recommande, c'est bien.
Ce qui commence, c'est les asperges. Les blanches sont très bonnes, les violettes. Oh, tout est bon, vous inquiétez pas.
Il y a les petites courgettes qui arrivent aussi.
Mais tout arrive, regardez, avec les fleurs. Ben, moi, tout me fait envie. Le début des fraises, ça, c'est un bonheur pour nous. On attend ça comme le Messie, on pourrait dire.
Ça, c'est vraiment les nôtres, c'est local, ça. Carrosse, c'est sur les hauteurs de Nice. Et celles d'à côté sont celles de Carpentras. Garriguette, sifflorette, la sifflorette elle est très douce. La garriguette elle est un peu plus fruitée, un petit peu plus acidulée.
Vous avez pris quoi?
Alors les carottes, les blettes, des poireaux, des pommes de terre, des petits pois et plein de pain.
Ben, il manque un peu les barres ouvertes. La pastis.
Ah, il y a de la crudité, hein, il y a de la crudité.
Ah, il y a du vert, il y a ben du vert, voilà. C'est le vert de l'espérance, le printemps.
Mais c'est dingue comment les saisons ne sont pas au rendez-vous à la même époque, quoi. Dans le sud, par rapport au nord, il y a un décalage pratiquement d'un mois, quoi.
Et oui, et puis il y a un décalage pratiquement d'un mois, et il y a aussi malheureusement, on est en avance un peu sur tout. D'ailleurs, par rapport au gel,
ce qui s'est passé,
c'était une catastrophe parce qu'on avait de l'avance. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de prendre une courgette, de croquer dans une courgette, de sentir cette humidité. C'est ce côté, le côté soyeux.
Ben oui,
ça donne le sourire en cuisine.
Eh ben tiens, dans la famille des fruits qui annonce le printemps, je demande les fraises, les amis. Hors sol, pleine terre, plein champ, quelle différence de coût et de goût? Réponse juste après ça.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Si je t'envoie des fraises de mon fraisier, c'est pour que t'oublies pas la mienne dans tes pensées.
Mais non, n'oublie pas votre fraise, Pierre Perret. Bien entendu, la preuve, on vous écoute. Très belle chanson sur les fraises de l'ami Pierrot. Vous le savez, qui a son rond de serviette à cette table et qu'on salue parce que je sais qu'il nous écoute. Alors, vous avez peut-être déjà inauguré la saison à la maison avec les premières fraises. Alors, ce sont souvent les garriguettes qui ouvrent le bal, hein, bien acidulées. Alors, quelle différence entre des fraises hors sol et plein champ? Le coût et le goût, ça c'est certain. Et on va étudier ça de plus près avec Yves Candebord et Olivier Pouls. Tiens, Olivier, est-ce que vous avez déjà croqué votre première fraise 2021, au fait?
Bah oui, c'est tellement difficile de résister. Les premiers beaux jours sont arrivés, les fraises sont sur les étals. Même si j'avoue que j'ai démarré un peu tôt dans la saison et qu'elles n'étaient pas toujours très mûres, là ça y est, on commence à se faire plaisir.
Yves?
Ouais, moi j'ai la chance de passer mon confinement dans le sud-est, sur la vallée de la Durance. Et on a une variété là-bas qui s'appelle la Jolie. C'est des très grosses fraises, mais sucrées. Elles sont bonnes pour faire des confitures sans rajout de sucre, avec très peu d'acidité. C'est du bonheur de la mettre en bouche, de la laisser fondre toute seule.
Alors, on va parler prix, hein. Les garriguettes, on les trouve en général en ce moment aux alentours de 10 euros le kilo. Les fraises rondes, 5 euros le kilo. On va rentrer plus en détail dans un instant. Vous le savez, hein, en France, on aime cultiver les fraises. L'année dernière, pendant le confinement, on vous avait parlé des fraises d'Alsace. Eh bien, on en récolte aussi en Bretagne, dans le Lot, dans le Midi. Et ce matin, on vous emmène en Périgord, une belle terre de fraises. Et Julien Amat a demandé à Benoît Théier, qui est producteur de fraises bio à Saint-Brieuc, quelles étaient, tiens, les variétés qui se plaisaient bien en terre périgourdine? Réponse au micro des bons vivants.
Donc en Périgord, les terrains sont relativement propices à la culture de la fraise. Des sols sablo-limoneux qui ont beaucoup de pierres, donc c'est pas facile à travailler, mais ça offre l'avantage de capter la chaleur. Oui, on a été légèrement frappé par le gel. Nous avons pu anticiper en couvrant avec des voiles d'hivernage. Donc nous avons évité le pire. Début avril, nous avons cueilli les premières garriguettes. Actuellement, nous débutons la cueillette des clairies qui dure à peu près jusqu'à la fin du mois de mai. Elle est vraiment caractérisée par son côté juteux et puis elle est moins acidulée que la garriguette. Alors les fraises remontantes, elles suivent les fraises printanières et on commence à les cueillir courant juin. Elles ont la faculté de pouvoir refleurir plusieurs fois pendant l'été, ce jusqu'aux premières gelées qui sont chez nous au mois de novembre. Parmi les variétés que je cultive, la Mara des bois que tout le monde connaît avec son parfum qui nous rappelle un petit peu la fraise des bois. J'ai également la Siraphine, la Mariguette et la Murano.
Ah, voilà de jolis noms. Merci Benoît Théier au micro de Julien Amat pour cette belle odeur de fraises. C'est vrai que j'ai eu la chance de cueillir les fraises avec Benoît l'année dernière en Périgord. Et la Séraphine, elle a du goût. Elle est juteuse, c'est une belle fraise aussi. Il n'y a pas que la garriguette effectivement dans la vie. Alors pleine terre, plein champ, hors sol, Quelles sont les différences, le coût et le goût, on en parlait. C'est une question de volume aussi, Olivier. Hein.
C'est une question de volume et surtout de modèle économique. Il faut savoir qu'en France, la production de fraises hors sol représente à peu près la moitié et les plein terre, c'est l'autre moitié. Donc ce sont vraiment deux approches et deux philosophies différentes.
Oui, le hors sol, il y en a de plus en plus aussi. Hein.
Oui, oui, malheureusement, on a vu apparaître ça maintenant, il y a une bonne dizaine d'années, les agriculteurs qui font les fraises hors sol, c'est-à-dire suspendues. Oui. Suspendues. Oh, c'est parce que voilà,
par
c'est
des substrats chimiques. Hein.
Oui, et puis honnêtement, c'est moins pénible à ramasser parce que faut pas oublier que la terre est basse, et surtout, ça permet d'avoir une fraise qui est plus rentable.
Comme vous dites, et bien tiens, à propos, je pense à Régis Pichon et à tous les fraisiculteurs qui nous écoutent. Régis Pichon qui est en Bretagne et qui fait de la fraise pleine terre, de la fraise de Plougastel. Et là, je peux vous dire que dans la famille Pichon, on se penche pour les ramasser. Alors, c'est vrai que le gros problème, c'est qu'il y a des serres chauffées aussi pour avoir des fraises au début de l'année, Olivier. Hein.
Et oui, si on veut sortir des fraises dès le mois de mars, ben, il faut chauffer les serres. Et là, on se heurte à un autre cas de conscience, c'est que le bilan carbone est 7 fois plus mauvais en termes de CO2 pour une fraise issue d'une serre chauffée que pour une fraise issue d'une serre qui prend la chaleur naturelle.
Alors côté prix, tiens, la différence entre une hors-sol et une pleine terre ?
On est à peu près la même chose, vous l'avez dit. En ce moment, on est entre 9 et 10 euros le kilo, c'est-à-dire 2,50 euros la barquette. Alors ça va dépendre des marchés. En début de saison, elle était beaucoup plus chère, mais là, le prix se stabilise.
Alors le goût, c'est là aussi où il y a une différence, on va se dire les choses. Hein ?
Oui, c'est vrai qu'il y a une différence, même si elle est foncièrement très légère. Il faut vraiment la déguster côte à côte pour voir cette différence-là. Mais celle qui vient quand même de la terre a un goût plus soyeux. C'est une fraise qui a plus de puissance, qui est plus sucrée.
Il faut surtout bien les cueillir à maturité parce qu'encore une fois, c'est comme les pommes, on privilégie le calibre et le transport. Et même les garriguettes hors sol, elles sont cueillies parfois avant maturité. Donc c'est pour ça qu'on les trouve trop acidulées.
Totalement. Et là d'ailleurs, celle que je viens de goûter, là, que je suis en train de faire fondre sur ma langue. Ouais, c'était une fraise qui était à point, mais il faut regarder la collerette quand on choisit les fraises. Quand la collerette est trop blanche, c'est-à-dire que c'est la fraise qui n'est pas mûre, qui a été ramassée bien à l'avance, tandis que quand la collerette est rouge jusqu'au bout, c'est une fraise qui est vraiment en maturité. Et le summum, c'est quand vous arrivez à le pédoncule de la fraise, à le tourner et à le retirer sans couteau, simplement par un geste manuel,
c'est bon
que vous avez une fraise à point.
Et Laurent, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même une donnée qui est fondamentale, c'est la rapidité avec laquelle on mange les fraises après leur cueillette, et surtout sans qu'elles soient passées par le froid. Une fraise qui a passé une semaine dans une chambre froide ou dans un frigo, qu'elle soit hors sol, plein champ, de tout ce que vous voulez, elle a perdu toutes ses saveurs. Pas de froid pour les fraises.
Et ben voilà, faites de belles salades de fraises avec du balsamique, avec du basilic, avec du sucre rapadura par exemple, ou une belle chantilly, c'est le bonheur ça. Allez, direction la Bretagne dans un instant. Entre l'élevage et le maraîchage, les terres bretonnes seraient dédiées à l'agro-industrie. Y a-t-il encore de la place pour des fermes familiales ? Eh bien on en parle avec Morgane Large qui est journaliste d'investigation et qui subit en ce moment des pressions inacceptables. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Vous en avez probablement entendu parler dans les journaux sur Europe 1. Début avril, la journaliste Morgane Large dénonçait des agissements malveillants à son encontre suite à la diffusion sur France 5 fin 2020 d'un reportage intitulé « Bretagne, une terre sacrifiée » dans lequel elle intervient. La région Bretagne, terre d'agriculture et d'élevage intensif, fait débat. Y a-t-il encore de la place pour une agriculture à taille humaine ? Eh bien, on fait le point avec Morgane Large, journaliste d'investigation, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Morgane.
Bonjour Laurent.
Alors vous êtes journaliste local pour la radio RKB, Radio Crèze-Brèze, et puis vous travaillez aussi pour des médias nationaux. Je le disais, vous avez enquêté sur l'agriculture bretonne dédiée à l'agro-industrie. Route, voiture déboulonnée, menaces, pression. On vous a entendu chez Philippe Vandel la semaine dernière avant d'aller porter plainte. Première question déjà, comment ça va Morgane ?
Eh bien, c'est variable. Il y a eu le chien empoisonné aussi, n'est pas mort, mais qui a été empoisonné. Là, il y a tout le groupe agroalimentaire qui est en train de se réveiller et qui m'accuse de les menacer et d'être ciblé par eux alors que je ne les ai jamais ciblés. Je ne sais absolument pas qui est intervenu chez moi, je dois
c'est
dire.
C'est ça, alors c'est très flou. Alors je voudrais qu'on comprenne bien. Dans vos reportages, vous visez davantage les politiques nationales et l'industrie que les agriculteurs bretons en fait. Qu'est-ce que vous pointez du doigt ?
Complètement. Alors moi, j'ai fait un travail assez long sur la politique régionale en matière avicole. C'était un plan volaille décidé par la Bretagne. Il y avait un projet de poulailler tout près de chez moi, donc c'était très facile d'enquêter. Ces poulaillers, c'était donc aux normes, avec des normes bien-être animal assez particulières qui consistaient seulement à mettre de la lumière naturelle dans les poulaillers, c'est-à-dire des fenêtres, et du sol en béton. D'ailleurs, le vice-président en charge de l'agriculture à l'époque que j'avais interviewé, c'était en 2019, fin 2019, je lui avais demandé est-ce que les poulets dans ces poulaillers, donc avec de la lumière naturelle et un sol en béton, seront meilleurs. Il m'a dit pas du tout. Voilà.
Oui, alors c'est vrai qu'on en parle souvent des élevages de porcs intensifs, même s'il y a des progrès en Bretagne, il y a des agriculteurs qui se lancent aussi sur de l'élevage de porcs à taille humaine avec de l'élevage sur paille, mais la Bretagne n'a pas bonne presse pour son élevage et ses cultures, parfois parce qu'on a voulu un petit peu bien que cette région nourrisse la France à un moment. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, sous De Gaulle, c'était une volonté gouvernementale. L'agro-industrie, elle n'est pas spécifique à la Bretagne, Morgane ?
Non, elle n'est pas si spécifique à la Bretagne, enfin, mais quand même, on est la première région de production en porc, la première région de production en lait, la première région de production en œuf, la première région de production en volaille de chair.
Vous nourrissez 26 millions de personnes pour 3 millions d'habitants, c'est ça, hein ?
C'est ça, enfin, sur la Bretagne administrative, parce que si je parle de Bretagne sans dire que la Loire-Atlantique autrefois appartenait à la Bretagne, je vais me faire tuer. Donc sur la Bretagne administrative à 4 départements, on est les premiers, on produit mais en pour c'est fou quoi. En porc, c'est 58% de la production nationale qui est faite sur le territoire. Le lait, on est à 5,4 milliards de litres de lait en Bretagne. En poulet, c'est 33%. En dinde, c'est 41%.
Enfin, oui, vous faites
et, on produit beaucoup en œuf, c'est 43% de la production française en œuf. Et tout cela avec, par exemple, le lait, 5,4 milliards de litres de lait, pas une seule AOP, oui, ni une seule AOC.
En fromage, absolument. C'est vrai qu'il n'y a pas de fromage estampillé à appellation d'origine protégée en Bretagne. Dernière question, Morgane. Est-ce qu'on peut assister au retour, vous pensez, d'une agriculture plus artisanale en Bretagne ? Ou est-ce que ce sont que des petits épiphénomènes ?
Non, c'est à souhaiter. Et puis, c'est salvateur pour le territoire. Parce qu'on le voit, enfin, ce modèle agricole, il a tendance quand même à vider les bourgs, à vider les écoles et à désertifier le territoire. Il y a un mouvement très intéressant qui se passe autour de producteurs locaux, et notamment des producteurs de lait, par exemple, qui veulent créer une AOP autour du Gouëlle.
Oui,
c'est passionnant.
Une
avec
sorte
des
de fromage blanc breton, absolument fermenté.
Voilà, avec des races locales. Et donc, bien ces phénomènes-là et ces commandes sur Internet de paniers, bien ça a une réelle dynamique. Et on a bien vu pendant le confinement, c'est ces gens-là qui ont vraiment assuré.
Et qui ont nourri la France avec ces circuits courts aussi. Oui.
Bah, je ne sais pas, mais tous les gens qui avaient le temps de cuisiner à nouveau, bah, c'est clair qu'ils avaient envie d'avoir des bons produits.
Et ben voilà, on voulait vous entendre en tout cas. Merci Morgane Large d'avoir
été de m'avoir donné la parole
avec nous. Et on vous soutient et on soutient aussi tous les agriculteurs bretons et les éleveurs bretons qui veulent travailler dans des conditions décentes. Merci Morgane Large. C'est
Kenavo.
Le printemps, Kenavo, une saison inspirante le printemps, vous le savez, pour nos chefs cuisiniers. On a plein de recettes accessibles pour vous. Et Vanessa Zocchetti, la rédactrice en chef à Madame Figaro, a enquêté sur le sujet. Elle sera avec nous juste après la pause. A tout de suite, on passe à table.
On passe à table sur Europe 1.
Avant de partir faire un tour dans les cuisines printanières, eh bien on prend la route. Tiens, direction l'Italie. On en rêve, non, Yves ?
Alors, je vous laisse y aller tout seul parce que moi, c'est direction le paradis, le Béarn.
La Dolce Vita. Bah, écoutez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. La Dolce Vita façon Lillicube sur Europe 1. Viva Italia !
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. C'est le calypso dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catinino. Et va la nave, et va la douce vie. On s'en ira toute la vie danser le calypso en Italie. Et voir à la crête, on va dans le troupeau du Campari quand Paris est à Londres.
boire un dernier martini et aller prendre un bain sur une plage à Capri. Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers. Au milieu de la nuit, en catimini, et va la nager, va la douce vie. On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie. Et boire à l'Egretto, maman trop beau, du Comari quand Paris est à l'eau.
Ça fait du bien, c'était Lily Cube sur Europe 1. C'est le printemps, alors ça se voit sur nos étals et par extension dans nos cuisines, et puis surtout dans celles de nos chefs cuisiniers qui attendent cette saison inspirante autant que la réouverture des restaurants. Alors pour l'occasion, la rédactrice en chef à Madame Figaro est avec nous pour ce beau hors-série cuisine, Vanessa Zocchetti. On va parler chef et cuisine de printemps. Bonjour Vanessa.
Bonjour Laurent,
bonjour Yves. Un très joli hors-série cuisine du Madame Figaro qui vient de sortir. Vous avez demandé à 10 chefs de vous livrer leurs recettes de printemps à refaire à la maison.
Exactement, je suis allée rencontrer 10 chefs, très connus, moins connus, étoilés, pas étoilés. Et on a parlé produits de printemps et ils nous ont livré leurs recettes faciles à faire avec ces produits à la maison.
Ça motive toujours les chefs le printemps comme challenge.
Le printemps, ils adorent. Yves, je pense, ne dira pas le contraire. C'est le renouveau, la fraîcheur, la légèreté. C'est le produit dans toute sa splendeur. C'est sortir des plats mijotés pour aller vers des cuissons plus rapides.
Cuissons vives.
Vives, plus du cru, plus de croquant, plus de fraîcheur. Et du coup, c'est une autre période qui s'ouvre pour eux. Ils aiment aussi l'hiver et l'automne, je crois. Mais le printemps, c'est le renouveau. C'est une nouvelle vie en cuisine qui commence.
Alors, ouais. Les chefs que vous avez cuisinés, pardon Yves, ce sont Anne-Sophie Pic, Stéphanie Lequellec, Éric Fréchon, William Ledeuil, Maurice Sacco, Julia Sedevjean, entre autres. Oui, Yves, vous alliez dire, le printemps, ça vous inspire
oui,
aussi.
Oui, parce que c'est les premiers produits, c'est le vert qui arrive. Et c'est des produits qu'on cuisine pratiquement pas. Parce qu'ils sont tellement beaux. La courgette croque dedans, les petits pois, on les mange crus. C'est facile à cuisiner. Et c'est produit à l'état pur.
Olivier, depuis votre Bourgogne, est-ce que le printemps pointe du nez déjà dans le potager?
Alors oui, mais la Bourgogne, on n'est pas comme chez Yves Cornebord, on n'a pas autant de soleil. Donc c'est un tout petit peu décalé. En revanche, le printemps, il pointe aussi son nez dans les verres. Parce qu'on ne boit pas la même chose au printemps qu'on le boit en hiver ou en automne. On a laissé de côté les cuvées un peu charpentées, les vins de Châteauneuf-du-Pape, pour boire des vins plus croquants aussi, plus frais. Et on a d'ailleurs les premiers vins blancs du dernier millésime qui ont été mis en bouteille. On a les rosés qui vont commencer à arriver. Et c'est aussi le printemps dans les verres. Oui.
Alors Vanessa Zocchetti, votre recette coup de cœur, tiens, dans ce hors-série. Je sais qu'il y en a plein des belles, signées Éric Fréchon, je le disais, William Ledeuil, Pascal Barbeau. Le chef de la Strance.
Alors moi, j'aime toutes les recettes. Je ne les ai pas toutes exécutées, je les aime toutes. Mais j'ai un petit coup de cœur pour la recette de William Ledeuil, le chef de The Kitchen Gallery. Parce que c'est un chef qui est connu pour son approche très végétale de la cuisine. Et que là, il nous a donné une recette de curry d'agneau. Curry vert d'agneau. Parce que c'est aussi lié à son histoire. William Ledeuil, il est fils de boucher. Et il avait envie de mettre à l'honneur cette viande très fine, l'agneau de lait, qui lui rappelle notamment cette jolie période du printemps avec l'agneau de Pâques, notamment. Et donc, il sublime cette viande avec un curry et avec ces jolis légumes de printemps verts et aussi des jeunes carottes. Et c'est une merveille.
Il y a des grands chefs, mais il y a aussi des étoiles montantes dans ce hors-série, hein.
Tout à fait. Alors, on a notamment mis un coup de projecteur sur un jeune chef qui s'appelle Clément Charlot à Caen. Il est chef du restaurant Fragment et il travaille énormément les produits locaux. Il est fou de produits de saison. Il se lance d'ailleurs en ce moment dans la cueillette. Il s'initie et c'est vraiment un chef à garder à l'œil, tout comme Alcidia Vulbo de La Bonne Aventure à Saint-Ouen, qui est une jeune femme qui est une ancienne de l'édition en reconversion et qui fait une cuisine très fraîche, très légère et qui nous a donné là une très jolie recette de betterave ad hoc framboise avec une vinaigrette avec une touche asiatique. Voilà, deux jeunes talents qu'on aime beaucoup.
Betterave nouvelle, ad hoc, c'est vrai que ça marche bien ce petit côté terre-mer.
Merveilleux.
Ça marche très bien.
Des framboises et puis une vinaigrette un peu asiatique, vous dites. Hein, c'est ça,
oui,
Vanessa.
À la prune fermentée en fait, et c'est vraiment un joli plat avec des couleurs très très jolies, très douces. Ça met en appétit, c'est plein de subtilité, et vraiment c'est un vrai bonheur cette recette. Et cette jeune femme est un vrai bonheur aussi.
Et ce qui est très intéressant, Laurent, c'est l'utilisation de la framboise comme de la fraise. Parce que c'est vrai que traditionnellement c'est toujours en dessert, alors que l'acidité l'un et de l'autre est remarquable avec le poisson. Un thon mariné, framboise écrasée ou fraise écrasée. Une asperge verte avec un peu de gingembre et une fraise. Vous faites des petites merveilles, des petits équilibres de saveurs très intéressants.
Eh bien voilà, vous l'entendez, nous sommes au printemps. Le printemps se met à table. Les chefs et nous avec lui. Les tendances tiennent de ce printemps en cuisine. On continue à tout vous dire avec Vanessa Zocchetti, notre Madame Figaro, juste après ça. Nous revoilà avec Madame Figaro en la personne de Vanessa Zocchetti qui sort un très joli hors-série cuisine avec un beau dossier consacré aux chefs qui cuisinent le printemps. Vanessa, à chaque saison, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a des tendances en cuisine. Dans ce hors-série là de Madame Figaro, on en a repéré quelques-unes des tendances.
C'est vrai que là, on a une petite tendance qui s'installe, qui avait déjà germé, c'est le grand coup de cœur des chefs et des particuliers qui aiment cuisiner pour la feta.
Ça, c'est le fromage du moment. Hein.
C'est le fromage du moment. Et d'ailleurs, Laura Portelli, qui est la chef de pique-nique, qui nous a livré une recette avec de la feta. Et ça donne un petit côté estival. Parce qu'on... Et le printemps, c'est bien, mais on attend aussi l'été.
Oui, ça apporte de la fraîcheur, ça s'émiette, la feta.
Allez, une astuce rapide.
Oui.
Mettez de la feta au congélateur et vous la laissez. Oui. Quand vous faites une salade toute sème verte, vous prenez votre feta, la microplane,
vous râpez,
vous faites de la neige de feta, ça vous amène du lacté, ça vous amène de l'onctuosité et surtout beaucoup de fraîcheur.
C'est magique ça.
Et une adresse,
oui,
sur la colline de Belleville,
bien
à Paris.
Sûr, oui.
Alexandre Alice, le profil grec,
exactement,
qui est un petit grec de Paris, qui nous fait une feta assez particulière et très savoureuse.
Et ben, je crois que c'est une adresse que Laura Portelli, dont vous parliez, aime beaucoup. Et Laura Portelli, elle est avec nous au téléphone du garde-manger à Paris, dans le 17e arrondissement. Bonjour Laura.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors,
bonjour
Laura. Vous résistez bien Laura en ce moment, parce que votre activité, c'est une activité de traiteur, de plat à emporter. Et la feta vous inspire énormément. Hein.
Alors oui, exactement, c'est une feta. Alors moi, je suis toujours inspirée par le chef Candebord. Et là encore,
il
a parlé de profil grec et c'est la feta dont on sert à pique-nique dans mon restaurant qui est fermé actuellement malheureusement et au garde-manger qui est ouvert et qui sert des plats emportés. C'est une magnifique feta qui est complètement bio, qui est faite par des personnes et non par des usines. Et puis qui est faite à 1000 mètres d'altitude avec du lait de brebis complètement.
Et voilà, la vraie
qui change
feta,
en fonction
de brebis,
des saisons.
Comment vous la
cuisinez? Alors moi, je la cuisine. Là, en l'occurrence, grâce à Vanessa, on a fait une recette au garde-manger où on grille des courgettes tout bonnement au four parce que je voulais que la recette soit très simple pour que tout le monde puisse la faire.
Ouais, les premières
courgettes. On fait griller des courgettes coupées en deux. On met au four une quinzaine de minutes à 180-200.
Ouais.
Ça dépend de la puissance de votre four. On le sort légèrement coloré, encore croquant. Et dessus, on fait une petite vinaigrette avec de la tapenade, du vinaigre de xérès et de l'huile d'olive.
Oh, c'est bien ça.
On fait. Alors,
c'est
ça,
la Méditerranée,
le vinaigre de
xérès, on y est en vacances là.
Ah bah attendez, moi je vous amène en vacances parce que je suis d'origine italienne, ça fait 2 ans que je ne peux pas y aller. Et ça me manque.
On compatit.
On vous garde.
J'en peux plus.
Donc la courgette grillée, la feta, ça passe au four. Après, il y a votre condiment un petit peu feta, menthe, tapenade.
Exactement. Alors, je fais la tapenade séparée comme une vinaigrette. Je mets ma feta au dernier moment bien fraîche, bien froide, en morceaux. Je peux même les friter avec les mains. Il faut que ça soit sensuel, la cuisine. Hein. Puis un peu de spectacle. Et à côté, je fais un espèce de petit condiment pour trempouiller mon légume. avec un peu de yaourt crampouillé.
Il faut crampouiller,
moi j'adore crampouiller.
Et il y a quoi dans ce condiment?
Merci Yves. Alors il y a un peu de yaourt grec, parce qu'il faut continuer. Alors vous mixez ça avec de la menthe effeuillée, bien fraîche, bien. Alors en Corse, vous avez la menthe poivrée là, qui est magique. Hein. Vous pouvez mettre ça. Vous mettez un peu de gingembre, parce que moi j'aime bien relever ça avec du gingembre, je trouve ça sympa. Je mets un petit peu de jus de citron, et quand je mets du jus de citron, je mets toujours les zestes du citron parce qu'il ne faut pas gâcher, c'est mon côté guirou. Et je mets un petit peu d'huile d'olive et de sel. Et puis un peu d'ail. Hein, parce
bien.
Que dans la, quand on est méditerranéen, il faut toujours mettre de l'ail.
Toujours.
Et ou du sud au moins. Hein.
Merci Laura Portelli d'avoir été avec
Laura.
Nous au téléphone pour cette
merci à tous,
belle recette. Et on la retrouvera en entier évidemment sur notre site europe1.fr. Autre tendance
merci
du moment
beaucoup.
Aussi, Vanessa Zocchetti, ce sont les pickles. Hein, vous en parlez dans ce hors-série cuisine.
Tout à fait. Et notamment, on en parle autour de la recette de Clément Charlot, qui est le chef de Fragment à Caen, qui lui est un fou... pas de pickles, je dirais plutôt de légumes fermentés. Donc lui, là, dans sa recette, il nous propose des carottes fermentées en saumure. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, d'abord, c'est très bon pour le microbiote, la fermentation. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a une vraie tendance autour de ça.
Faut bien la doser parce que ça oui. devient tendance. Mais attention, quand c'est mal dosé, ça peut être très mauvais pour le microbiote.
Hein, exactement. C'est pour ça qu'il faut suivre la recette du hors-série à la lettre.
Maline
voilà. Non, mais c'est important de
c'est
le dire.
C'est très important.
Parce que autant les pickles, il n'y a pas, oui. de, y a pas de risque.
C'est
parce
ça.
Que c'est cuit
c'est
par
du vinaigre.
L'acidité du
ouais.
vinaigre. Mais que la fermentation, il faut vraiment la pratiquer en respectant à la lettre la recette.
On a dans beaucoup de recettes un petit jeu sucré-salé.
Merci Vanessa Zocchetti d'être venue à la table des bons vivants. Donc je rappelle, en partenariat pour ce beau dossier, votre hors-série cuisine Madame Figaro qui est en kiosque actuellement. Et puis il y a bien d'autres recettes aussi. Il y a des recettes de pique-nique, il y a des beaux desserts de printemps et puis une belle balade dans les îles aussi. C'est vrai qu'on a envie de voyager. Allez, c'est bientôt l'heure d'accueillir notre invité. Dans un instant, on se met à table avec le comédien, journaliste, écrivain Christophe Bourseiller. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Nous sommes samedi midi et c'est l'heure d'accueillir notre invité, écrivain, journaliste, comédien, chroniqueur, musicomane, cinéphile, politologue et bon vivant.
Ah
il
oui.
est inclassable cet homme-là et sa curiosité est insatiable. Il vient de publier deux livres, un consacré à l'extrême gauche et l'autre à un écrivain méconnu. C'est Christophe Bourseiller, notre invité. Bonjour Christophe.
Bonjour, je suis ravi d'être là je suis sur un territoire que j'adore.
Et on est ravi de vous recevoir parce que vous faites partie de notre époque, de notre génération. Ceux qui ont mon âge vous connaissent depuis la guerre des boutons en tant que comédien, on en parlera. On vous a vu évidemment dans Un éléphant, ça trompe énormément. Et puis vous êtes aussi un spécialiste, historien des courants
ça, c'est
minoritaires.
Autre chose, oui. Hein, c'est vrai que je suis très populaire maintenant, plutôt dans les EHPAD, dans les hospices, mais aussi il y a des jeunes, il y a ceux qui m'ont vu dans Prof, donc il y en a des plus jeunes comme
en
vous,
plus,
Laurent,
il oui.
Y en a des plus jeunes heureusement, mais ça me fait plaisir d'ailleurs quand je vois des jeunes qui me disent « Ah, vous êtes culte, malgré moi hein, !»
Et qui traversent les générations.
Semble-t-il.
Et là, vous venez nous voir avec un roman qui s'appelle « En cherchant Parvu Lescaut » aux éditions La Table Ronde. Alors, c'est un roman étonnant parce que vous êtes parti à la recherche d'un écrivain que je ne connaissais pas,
personne
méconnu,
le connaissait,
hein,
mais...
une sorte de poète maudit qui vivait dans la misère, qui est apparu dans quelques films de cinéma parce que vous dédiez ce livre à votre parrain Jean-Luc Godard. Donc un personnage comme ça, vraiment iconoclaste.
Bah, vous savez, il faut revenir. Alors, je vais raconter très brièvement l'histoire du cinéma. En 1960, Jean-Luc Godard sort son premier film qui frappe les esprits, qui rencontre d'ailleurs un très grand succès qui s'appelle À bout de souffle. Et dans À bout de souffle, il y a une scène tout à fait mystérieuse où on voit un avion qui se pose sur un petit aéroport et il y a un monsieur qui sort de l'avion. C'est Jean-Pierre Melville avec un chapeau sur la tête, des lunettes noires et un imperméable. Et il est questionné par une meute de journalistes, dont Gene Seberg. Et dans le film de Godard, Jean-Pierre Melville joue le rôle d'un écrivain célèbre nommé Jean Parvu Lescaut. Jean Parvu Lescaut qui existait, mais qui n'avait à l'époque rien écrit, mais qui était un copain de Godard.
C'est ça. Vous voyez, donc vous partez sur les traces de cet écrivain. C'est vraiment une enquête. C'est passionnant, c'est drôle, c'est touchant, c'est intriguant. Je le disais,
bouffer, hein, Christophe Bourseiller, vous êtes boulimique de travail. Est-ce que vous prenez le temps de cuisiner et de vous mettre à table un
petit peu? Alors, je prends pas tellement le temps de cuisiner, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est par contre, je prends le temps de me mettre à table et j'attends avec impatience la réouverture des restaurants, parce que je veux dire que là, je suis en manque, comme un drogué en manque, si vous voulez.
Et quand vous cuisinez, qu'est-ce que vous faites?
Alors, écoutez, ça dépend, c'est assez variable. Qu'est-ce que j'ai pu faire récemment? J'ai fait la carbonade flamande.
Oh,
j'ai tenté la carbonade flamande. Voilà, je fais des trucs un peu bizarres. J'adore le sucré-salé, le mélange des genres. Moi, j'aime bien que ça soit... Je déteste le conformisme en cuisine.
Ah bon, on va en parler parce qu'on a un plat du jour qui devrait vous plaire. Quel est votre goût de la semaine, tiens?
Alors, écoutez, mon goût de la semaine, là, j'hésite un peu. J'en ai deux goûts qui me trottent dans la tête. D'abord, j'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, tout à fait par hasard, du piment d'Espelette et j'en mets partout. Donc ça, je dirais que ça serait mon premier goût. Ça serait mon premier goût de la semaine. Et puis il y a un goût quand même très fort. Là, je me fais des plaisirs en ce moment. On peut plus manger au resto et c'est le pastrami. C'est une passion que je partageais avec Dick Rivers, vous savez, quand il était des nôtres. On avait un sujet de conversation hautement philosophique qui était le pastrami, où trouve-t-on le meilleur? Alors gros débat, enfin, certains disaient Montréal, d'autres New York, enfin...
Vous cuisinez, vous nous le dites, hein, Christophe Bourseiller. Beaucoup d'auditeurs cuisinent, mais beaucoup d'auditeurs aussi cuisinent aujourd'hui avec des robots cuiseurs. Alors Yves, vous avez enquêté sur le sujet et ça m'intéresse d'avoir votre avis de chef sur la question, ces fameux robots cuiseurs qui font tout presque à notre place.
Oui, je me suis amusé à tester différents, le Thermomix, le Lidl, le Bosch. Bon, ils font tous la même chose, ils se ressemblent, il y a des légères différences, mais le résultat est très proche. Après, ça ne remplacera jamais... La cuisine traditionnelle, ça ne remplacera jamais la main, la sensibilité. C'est vrai que ça saute, que ça cuit vapeur, que ça rôtit, que ça braise, mais la cuisine traditionnelle, dans nos bonnes vieilles cocottes, restera la meilleure.
Mais pas contre le robot cuiseur, alors?
Ah non, je ne suis pas contre. C'est vraiment quelque chose que j'offrirais à un jeune qui débute dans la vie, qui s'installe dans un petit studio, une studette où il n'y a pas de cuisine. Et avec ce robot cuiseur, il est capable de faire des plats cuisinés, des plats très très simples, assez facilement, sans aucun ustensile.
Ça vaut son prix, hein, parce que si on offre ça à un étudiant, il faut lui offrir, parce que ça coûte cher. Hein.
C'est vrai que c'est le gros inconvénient, c'est ça un coût assez élevé, voire très élevé, mais Laurent, ça permet quand même de cuisiner dans un petit réduit.
Dans un petit réduit?
Oui.
Dans une petite place, vous voulez dire?
Dans une petite place.
Et comment on fait pour la vaisselle?
On a toujours le lavabo pour se laver les dents. Quand
ah
même.
Oui, d'accord. Non, parce que pour nettoyer un robot cuiseur, ça doit être l'enfer absolu.
C'est
non
une grosse cuve, non? C'est juste une grosse cuve à nettoyer.
Au contraire, l'entretien est aussi assez facile pour finir. Alors, je me suis amusé à faire de la crème anglaise, de la mousse au chocolat. J'ai fait un curry de veau. Mais honnêtement, il y a un résultat qui est très convenable.
Belle cuisson, belle osmose avec la sauce.
C'est bien équilibré. Alors, c'est des recettes qui sont vraiment détaillées de A à Z, qui sont déjà enregistrées dans l'appareil. Donc, en fin de compte, c'est simplement des appuis. Ça se fait tout seul. Le temps de cuisson est foncièrement identique. Mais le gros avantage, c'est qu'on n'a pas à surveiller, on n'a pas à accompagner. On laisse à l'appareil.
Et s'il y a une panne de courant?
Alors, s'il y a une panne de courant, on peut faire du tartare. C'est encore possible. C'est ça.
Et vous avez passé moins de temps en cuisine, du coup, ou pas avec cette histoire?
Alors, le temps de préparation est identique, mais c'est le temps de surveillance. Il n'y a pas de temps de surveillance. Voilà, c'est un chrono. L'appareil, vous le réglez et ça marche tout seul.
Le mot de la fin sur votre blanquette. Je sais que vous avez fait une blanquette en version préprogrammée. Je sais que vous êtes un as de la blanquette maison en cocotte.
Il n'y a pas photo, parce que là, il y a de l'amour, il y a de la mienne, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de la transmission. C'est ma chair que je mets dans l'assiette. C'est tout ce que j'aime, je mets dans l'assiette. Donc, il y a une grosse différence, bien sûr. Mais ça reste, honnêtement, très convenable.
Donc, validé par Yves Candebord, le robot cuiseur.
Validé à faire un cadeau en commun, parce que ça coûte,
oui, ça coûte très cher. Vous n'avez jamais essayé?
J'ai jamais essayé, j'en ai une peur panique. Pour moi, c'est ces machines électroniques, c'est un peu comme la liseuse pour lire des livres. Vous voyez, c'est les trucs abjects. Par contre, il y a tellement de beaux instruments pour faire la cuisine. Il y a tellement d'ustensiles complexes, passionnants. Rentrer dans une boutique où on vend des ustensiles de cuisine, c'est du délire tout ce qu'il y a.
Avec des jolis noms, un diapason.
Oui, voilà, des choses bizarres, enfin des verbes pour chaque type de boisson.
Si ça peut enclencher quelqu'un qui n'est pas habitué à cuisiner, l'enclencher, lui dire que cuisiner c'est ludique, cuisiner c'est beau, moi je suis quand même un peu pour.
En tout cas, le débat est lancé.
Accompagnons.
Restez avec nous. On revient après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle avec un plat de printemps inspiré d'un classique de la cuisine italienne. Ça devrait vous plaire, Christophe Bourseiller.
D'accord.
Vous qui aimez les pas de côté en cuisine. A tout de suite. Des frites, des frites, des frites. Bienvenue hein, si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Merci encore, hein, chers amis, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque samedi de 11h à midi et demi. Alors, nous avons depuis 11h cuisiné le printemps à la mode de nos chefs cuisiniers. Nous sommes revenus sur le travail de Morgane Large qui enquête sur l'influence de l'agro-industrie en Bretagne. Et nous revoilà avec notre invité, le bon vivant Christophe Bourseiller, qui sort un roman passionnant et intrigant qui s'appelle « En cherchant Parvu Lescot », un drôle de poète maudit qui a existé aux éditions La Table Ronde. Alors, vous venez d'une famille d'artistes, hein, Christophe Bourseiller.
Oui, oui, absolument. Oui.
Votre maman comédienne, votre père auteur et producteur, votre beau-père metteur en scène. On vous a transmis très tôt l'amour des textes du théâtre et du cinéma. Est-ce qu'on vous a transmis tôt aussi le goût de la cuisine aussi ?
Oui, alors ça c'est très fort. J'avais des parents qui étaient extrêmement raffinés et qui étaient extrêmement gourmands. Et je dois dire que notamment j'ai eu la chance d'aller de tourner dans La Guerre des Boutons à l'âge de 4 ans. J'ai eu la chance d'aller au théâtre très très jeune. J'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Ionesco à 3-4 ans. Et j'ai eu la chance d'aller dans des tables étoilées très jeune. Et ça m'a j'ai un souvenir par exemple, une anecdote qui peut vous faire sourire, c'est que il y a 2-3 ans, je suis allé à Lousteau de Beaumanière, à la Beaumanière au Beau-de-Provence, merveilleuse table.
Et là, j'ai
terrorisé tout le service, ou en quelque sorte les gens qui étaient en salle, parce que je leur ai demandé le feuilleté de riz de veau. Pourquoi ? Parce qu'en 1967, alors que j'étais un tout petit enfant, mes parents m'avaient emmené à la Beaumanière, et qu'à l'époque, c'était M. Tuillier qui dirigeait cet établissement.
C'est Glenn Viel aujourd'hui.
Sa spécialité, c'était le feuilleté de riz de veau. Et je l'ai redemandé, et là, il y a eu un débat en cuisine, c'était pas sur la carte, et le maître d'hôtel est venu me dire « Monsieur, bien sûr, vous aurez un feuilleté de riz de veau. »
Ça, c'est les grandes maisons.
Grande maison et Madeleine de Proust, j'ai pu déguster mon feuilleté de riz de veau dont je rêvais, il était moins bien, dont je rêvais depuis mon enfance.
Le fameux souvenir d'enfance.
C'est le fameux goût de l'enfance, on vous questionnera
trop d'olive.
Sur ça. Mais... ouais, ben voilà, mais peut-être qu'ils vont le refaire à la sauce classique,
oui,
peut-être.
Faites-le, hein. Faites-le.
Vous parlez de tous les gens que vous avez rencontrés dans votre enfance. Il y a une personne que vous avez rencontrée, que vous avez bien connue, et nous, qui nous fait rêver. Moi, j'adore son cinéma. C'est un cinéma de copains, un cinéma de brasserie, de bistrot. C'est Claude Sauté.
Oui.
Vous avez passé du temps à table
J'ai
avec Claude
Sauté. J'ai passé du temps à table avec Claude Sauté parce que, si vous voulez, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais tous les week-ends au Moulin de la Guéville, près de Paris, chez Yves Robert et Daniel Delorme. Et là, c'était table ouverte. Et je dirais qu'un repas pouvait durer de 13h à 20h, hein, je précise. C'était génial.
Bon moment,
et il y avait tout le cinéma français qui venait déjeuner. Donc il y avait Claude Sauté qui venait avec sa femme Graziella. Il y avait Jean Rochefort, évidemment, Jean Carmé. Enfin, Carmé, il venait avec des camionnettes de vin parce qu'il faisait le tour des producteurs.
C'est très étonnant.
Ah, c'est belle. Voilà. On a envie d'être une petite souris dans votre vie, Christophe Bourseiller.
Mais c'était des gens qui étaient des bons vivants. Alors j'espère que les gens de cinéma aujourd'hui le sont aussi, des bons vivants. D'ailleurs, j'en doute pas tellement. Mais c'était des gens, c'est vrai, il y avait un bonheur de vivre, une espèce d'appétit comme ça qui était extraordinaire.
Alors pour le plat du jour, Christophe Bourseiller, vous qui aimez les pâtes côtées, on vous a apporté un plat. Tiens, déjà à l'œil, est-ce que vous savez de quoi il s'agit?
Bah non, pas vraiment. J'ai cru que c'était des pâtes. Et puis en fait, je viens de toucher, c'est froid.
Alors c'est un trompe-l'œil de pâtes. Ce sont des poireaux carbonara.
Ah, génial.
Poireaux carbonara.
Ah, bonne idée. Hein, bonne idée.
Ça vous plaît les plats revisités?
Je me jette dessus.
Laurent,
hein.
C'est surtout très beau.
C'est très très beau.
C'est très beau. Oui.
On vous met la photo sur
europe1.fr.
Oui, il y a un côté trompe-l'œil. Et c'est un restaurant qu'on aime beaucoup qui s'appelle Candide. Et c'est le chef Alessandro Candido qui a imaginé cette recette.
Je suis allé
dans le 19e arrondissement de Paris.
Ah oui.
Vous en souviendriez peut-être de ce,
écoute,
de ce plat.
Attendez, ça, j'ai pas goûté ce plat. Là.
Qu'est-ce qu'on boit, tiens, cher Olivier Pouls, avec un joli plat comme celui-ci, poireau carbonara?
Vous me mettez l'eau à la bouche, les amis. Alors, je ne suis pas là, je me suis quand même permis de vous envoyer une petite bouteille. Et j'espère que ça va vous convenir. Je vous ai apporté un vin de la gamme OE. Ce sont des vins bio plus, c'est-à-dire qu'avec une démarche qui va très loin en dehors du respect de la culture, de la vinification. La bouteille est recyclable et recyclée. Le bouchon est éco-responsable comme étiquette, etc. Mais le vin est intéressant. C'est un vin du Languedoc que je vous ai transmis. J'espère qu'il vous convient. convient. C'est un assemblage Grenache-Vermentino. Vermentino, qui est un cépage italien qu'on trouve aussi dans le sud de la France, tout le long de Rolles.
Voilà,
quelque chose d'un peu printanier, d'un peu frais, et qui, j'espère, avec les carbonara, se marie bien.
Comme ce poireau carbonara. Alors, verdict, Christophe Bourseiller.
Alors, le poireau carbonara sublime, c'est une idée géniale, je trouve. C'est d'une finesse, c'est frais.
Là, il est servi à température ambiante et c'est pas gênant.
C'est une très belle idée. Alors là, vraiment, je trouve ça génial. Et alors, le vin, il est divin, il est très italien. Et il y a quelque chose, c'est presque un rosé, je trouve. Il y a des rosés qui ont des saveurs qui s'en rapprochent.
Effectivement, il y a un petit côté floral, comme dans certains rosés. Yves Candebord, votre verdict tient aussi.
Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on a le poireau qui est en froid. Voilà, ça pourrait être particulier, mais accompagné avec ce petit crispy là de lardon qu'il a posé dessus, et zébré avec la crème et le jaune d'œuf. Le petit plus, c'est quand même ce tour de moulin à poivre qui paraît excessif.
Mais il en faut dans la carbo.
Mais
hein.
Qui est indispensable.
Du poivre.
Indispensable.
Indispensable, ouais. Le tour de moulin à poivre.
C'est très, très équilibré, Laurent.
Eh bien, ne bougez pas, on revient juste après, dans un instant, avec vos 2 minutes du vin, Olivier Pouls, depuis votre Bourgogne. Quel vin accordé aux produits de saison? On revient avec Christophe Bourseiller. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1.
Soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez. Nous revoilà avec notre invité Christophe Bourseiller, journaliste, essayiste et politologue. Et une première vie de comédien, on en parlait. On va continuer à en parler de votre première vie de comédien. Ça a commencé très tôt d'ailleurs, vos premiers pas au cinéma.
Écoutez,
Christophe Bourseiller.
Oui, c'est ça le problème quand on est ce qu'on appelle un enfant de la balle et qu'on grandit au milieu des gens de spectacle, malgré moi. Hein, c'est qu'à l'âge de 4 ans, on m'a déjà jeté devant les caméras. Et donc, je fais un film, je ne comprenais rien. J'étais payé avec une petite voiture que j'ai perdue. Et là-dessus, succès mondial. Donc on m'en reparle encore aujourd'hui.
Bah, la guerre des boutons.
Ah, vous étiez dans la guerre des boutons.
Et alors votre fameuse réplique dans la guerre des boutons.
Alors moi j'avais une réplique très particulière parce que j'étais le plus jeune de toute la bande et ma seule réplique, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et encore, c'est couille molle. Donc voilà.
C'est pas vrai.
Oui.
Vous avez bien connu également Jean-Luc Godard, vous en parlez dans ce livre en cherchant Parvu Lescot. Jean-Luc Godard qui était presque votre parrain dans
votre
enfance.
Mais totalement, j'ai pas été baptisé, donc c'était les familles, vous voyez, révolutionnaires qui baptisaient pas, mais en revanche, oui, Jean-Luc était considéré comme mon parrain. Et si vous voulez, il faut bien comprendre que moi, quand je vois les films de Jean-Luc Godard des années 1960, j'ai une relation très particulière à ces films, parce que d'abord, j'étais dedans pour au moins trois de ces films, qui étaient une femme mariée, deux ou trois choses que je cédais les week-ends. Et puis, il y a des films où il y avait ma mère qui était dedans, il y a des films où il y avait ma sœur qui était dedans. Et puis, surtout, dans la plupart des films, c'est tourné chez nous. C'est-à-dire que ce sont nos meubles qu'on voit.
Donc, les buffets,
La chinoise de Godard a été entièrement tournée dans leur appartement parisien. Donc quand je vois les films, moi je vois les meubles dont je me souviens, les lampes, la cuisine, parce qu'on était tout le temps dans la cuisine. Évidemment, on bouffait tout le temps. Et je vois des trucs comme ça. La voiture de Bande à Part, de Belmondo dans Bande à Part, c'était la nôtre. Vous voyez, donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai une relation complètement incestueuse avec ces films des années 60. En fait.
Et il aimait la soupe de votre grand-mère, Jean-Luc Godard.
Ma grand-mère était une cuisinière. Ma grand-mère venait d'un milieu pauvre, très pauvre. Et ma grand-mère faisait des recettes géniales de pauvres. Par exemple, elle faisait un ragoût de pommes de terre extraordinaire. Alors vous savez, elle faisait ça avec un vieux reste de jus de viande qui traînait d'un précédent repas. Et c'était bon, ces ragoûts de pommes de terre, c'était génial. Et elle faisait des soupes qui étaient mémorables. Enfin, les gens venaient exprès pour manger ces soupes.
Vous nous avez parlé d'Yves Robert, qui vous a fait tourner dans Un éléphant, ça trompe énormément,
bien sûr,
et dans La guerre des boutons.
Et dans Nous irons tous au paradis, et dans Courage Pignon.
On en parlait pendant la pause, vous disiez qu'il avait un plat de prédilection le week-end.
Il y a un plat qu'il faisait merveilleusement bien, c'était le roi du cochon de lait. Mais c'est rare le cochon de lait, on ne mange pas tant que ça.
Il le faisait en sauce ou rôti?
Rôti,
à la broche.
Il faisait ça à la broche. Et c'était vraiment absolument... Mais c'est moi, j'ai un souvenir, mais parce qu'il allait évidemment chez les meilleurs bouchers, enfin tout ça.
Forcément.
Les produits étaient sélectionnés à l'extrême, mais c'était génial. Et je me souviens qu'un jour, il avait quand même commis une grosse erreur. Il nous avait servi, d'un roast beef, ou un jour où il était plus calme. Et au lieu de saler avec du sel, il avait salé avec de l'Ajax. Ça a été une petite erreur. Dans la vie, ça arrive.
Le vin, ça vous intéresse? Ça compte pour vous?
C'est énormément, bien sûr. Écoutez, que ferais-je sans le vin? Boire d'abord?
C'est le printemps, Olivier Pouls. Vous allez nous aider à accorder nos bouteilles avec des produits de saison. Un champignon de saison, pour commencer. Un fromage qui se déguste en primeur. Et puis une charcuterie vintage. Hein. On peut dire ça? comme menu.
Oui, oui, exactement. Et puis, je vous propose qu'on commence avec, avec le champignon, la morille quand même, le roi du printemps. Quel bonheur quand on les voit sur nos étals, on en trouve en ce moment. Alors, la morille, l'accord royal, c'est le vin jaune, cette grande spécialité du Jura. Alors, plus accessible, parce que les bouteilles de vin jaune sont assez chères. Le savagnin, hein, qui est le cépage du vin jaune, un bon savagnin avec une morille, on en met quelques gouttes dans la sauce, c'est absolument merveilleux. Puis, si vous n'aimez pas ça, prenez un vieux vin blanc de Bourgogne, même un petit peu passé à la limite, vous allez voir comment la morille le repeps.
Voilà. Vous acquiescez, j'adore Christophe Bourseiller se régale des poireaux carbonara. Vin jaune, c'est le côté un petit peu oxydatif qui vous fait peur.
J'ai jamais eu de bonne expérience de vin jaune, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance. Hein. C'est vrai que j'irais plus vers un vieux Bourgogne un peu passé, comme il dit, j'adore l'idée du Bourgogne un peu passé, c'est beaucoup plus drôle.
Alors il y a un fromage qui se déguste en primeur en ce moment, on va rentrer dans la pleine saison vraiment dans un mois, mais c'est un fromage délicieux que les Français adorent, c'est le Saint-Nectaire, Olivier.
Ah, et moi je l'adore aussi, le Saint-Nectaire fermier, bien évidemment.
Oui, ah bah oui.
Et alors ça, c'est le fromage que je choisis quand je veux servir un vin rouge avec du fromage, parce qu'habituellement, c'est vrai que le vin blanc s'associe mieux, on le sait maintenant.
Oui.
Mais le Saint-Nectaire est une petite exception et il a cette particularité de ne pas être agressif pour les tanins du vin rouge. Donc là, faites-vous plaisir. Même un Bourgogne, vous pouvez y aller. Il ne faut juste pas prendre un vin trop puissant pour ne pas écraser la finesse du Saint-Nectaire.
Et pour terminer, tiens, un intemporel vintage, moi que j'aime personnellement beaucoup, mais je ne suis pas le seul, je suis sûr, c'est l'aspi, hein, qu'on appelle le fangelé aussi.
Ah oui.
Bah, oui, vous savez, sur les étals des traiteurs classiques et traditionnels, le repas du dimanche. Moi aussi, je l'aime beaucoup, l'aspi jambon avec un petit Beaujolais gourmand. On parlait tout à l'heure de Jean Carmet, de ses camionnettes de vin. Je pense qu'il aurait été ravi de déguster ça.
Il aurait aimé venir. Hein.
Voilà, et puis les aspis au saumon, parce qu'on en trouve aussi, avec un blanc vif. Et là aussi, je pense qu'il aurait aimé un petit coup d'entre-deux-mer ou de petit chablis bien nerveux.
Eh bien, merci pour ces beaux accords, mes vins, Olivier Pouls.
Oui, un mot là-dessus, je suis un fou de la gelée. Et depuis toujours, j'ai un souvenir d'enfance, j'oublierai jamais. Vous savez, moi, j'ai des plats que je mémorise.
J'adore les gelées aussi.
C'est le chaud-froid de poularde à l'Estragon, de l'Auberge de France à Avignon. À l'époque, j'allais au Festival d'Avignon étant d'enfant. Chaud-froid de poularde à l'Estragon, c'est-à-dire vous avez la poularde légèrement tiède, entourée de gelée, d'une gelée absolument divine, avec de l'Estragon, c'est tellement bon.
Vous êtes historien des courants minoritaires en France, je propose que vous deveniez historien vraiment des bons moments passés à table aussi, Christophe Bourseiller.
C'est une idée. C'est une
ne
idée.
Bougez pas, on revient avec vous juste après cette pause, et ce sera l'heure de passer sur le grill des bons vivants, avec un vrai bon vivant. Christophe Bourseiller est avec nous, et c'est un régal. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants.
Dernière partie de notre émission avec le bon vivant Christophe Bourseiller.
Alors déjà,
vous savez, ça passe vite. Ben oui. Hein. Quand on est en bonne compagnie, ça passe vite.
Ben c'est vrai.
Christophe, vous êtes venu nous voir avec votre dernier roman, En cherchant par vue Lescaut, aux éditions La Table Ronde. Mais vous sortez aussi un livre. Alors là, c'est du sérieux. C'est la nouvelle histoire de l'ultra-gauche, hein, puisque vous êtes un spécialiste, un historien des courants minoritaires en France. Tiens, est-ce qu'il y a une façon de manger différente en fonction de ses appartenances et de ses convictions politiques?
Oui, alors il y aura une fonction. Il me semble qu'il y a une différence. Par exemple, je pense que à gauche, c'est copieux et à droite, c'est plus raffiné. Vous voyez, je dirais que la différence, c'est là. À droite, les portions sont moins grandes dans l'assiette, mais c'est assez raffiné. Par contre, à gauche, on mange bien. Vous voyez ce
on
que je veux dire?
On est rassuré par quelque
on
chose
est rassuré
de
par des bons plats roboratifs. Mais c'est vrai que les militants d'extrême gauche que je connais sont des gens qui, quand même, ont un peu laissé de côté la gastronomie. Quoi. C'est un peu la tradition. Alors, il y a deux écoles. Hein.
Il y a les zadistes.
Les zadistes sont dans l'expérimental bio vegan.
Ouais.
Donc, à la limite, c'est intéressant parce que là, on ne sait pas ce qu'on va manger et on ne sait pas ce qu'on va boire non plus. Donc, on est dans le mystère absolu. Et sinon, de l'autre côté, chez les gauchistes plus traditionnels, alors on est plus dans le steak pommes frites un peu à l'ancienne, vous savez, le bon vieux steak frites.
On est peut-être plus dans le partage, non, aussi des plats partagés.
Et on est dans on est dans le partage, mais on est aussi dans la nécessité de faire la cuisine populaire, vous voyez. Faut que ça soit de la cuisine populaire.
Mais c'est celle dont vous parliez aussi qu'on mange également à droite. Hein. Vous parliez de tout à l'heure du cinéma de Claude Sauté, La France sous Pompidou. C'était ces plats rassurants aussi, ces jolis mijotés et ces beaux plats en sauce.
Le bourguignon.
Bah voilà.
Est-ce qu'il
a une appartenance politique, le bourguignon?
Non, ça rassemble tout le monde.
Bah
ça,
voilà.
À condition que la blanquette ne soit pas avec du riz, c'est tout ce que je demande.
Le riz est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale dans la blanquette.
C'est bon la blanquette avec le riz.
Ah non, moi j'aime pas. J'en ai marre. Je trouve que c'est du conformisme intellectuel. Je veux dire tout. C'est pourquoi du riz? J'en peux plus. Le riz avec la blanquette, j'en peux plus. Moi, j'invente autre chose. Alors moi, je mets des endives braisées.
Ah oui, ça marche bien avec le bourgeois, il a raison, Christophe Bourseiller, parce qu'au début, il n'y avait pas de riz dans la blanquette. Le riz est arrivé en garniture pendant la seconde, après la Seconde Guerre mondiale, figurez-vous.
Mais moi, j'insiste. Moi, je trouve qu'avec la blanquette, le riz se marie très, très bien. Un petit riz avec un zeste de citron, des amandes grillées.
C'est l'ennui, je blanquette. Meurs d'ennui.
On n'est pas une vraie table de France, là, regardez. Avec le riz, je meurs d'ennui,
vous voyez, c'est un slogan.
Non, mais ça, c'est parce que vous avez mangé des mauvais riz.
Ah ben ça, c'est possible.
Je
ça,
me mets au défi de vous faire manger un bon riz.
Ah ben d'accord, Yves, avec plaisir, allez en route.
Alors avant de passer sur le grill des bons vivants, cher Christophe Bourseiller, il y a une chose essentielle à savoir sur vous. Vous avez monté un comité spécial, un comité éphémère.
Ah oui, avec des amis, il y a quelques années, on avait monté un comité contre la salade décorative. Parce qu'on n'en pouvait plus d'aller dans un restaurant
où on
servait une espèce de feuille de salade ridicule, souvent d'ailleurs un peu fanée, un peu moche comme ça, qui était censée accompagner le plat. Alors le pire, parfois, il y a une tomate posée sur la salade.
Ah, c'est terrible.
Qu'est-ce que ça fout là, ces trucs-là?
Nous sommes d'accord.
Ah, ben, c'est bon,
on rejoint le club, on rejoint le comité.
Mais je crois que mon comité a eu une certaine influence. Parce que ça tend à disparaître.
C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Christophe Bourseiller. Quel est le goût de votre enfance?
Je vous l'ai dit, je crois pour moi, c'est les ragoûts de ma grand-mère et bien sûr, le ragoût de pommes de terre. C'est inoubliable.
Le premier plat que vous avez cuisiné?
C'était des spaghettis à la mimolette vieille, je précise.
Ah, ça, c'est bon, la vieille mimolette. Oui, oui, oui. Et votre plus beau repas, dans le sens inoubliable?
C'est un repas de Noël chez Yves Robert qui s'est terminé vers 21h30. On a démarré à 13h à peu près et à 21h30, on est tous séparés en hurlant pour aller se coucher dans les chambres alentours.
Grand réalisateur français, mais cuisinier aussi, on le découvre.
Grand cuisinier et sa femme aussi, Danielle Delorme, à qui il faut rendre hommage, ma marraine, qui était aussi une grande comédienne, grande productrice et grande cuisinière.
Votre pire repas?
Écoutez, ça peut arriver dans un restaurant particulièrement prétentieux, dont je tairai le nom par charité chrétienne, on va dire. C'était un restaurant japonais de Saint-Malo, intramuros, qui se la jouait. Et j'ai attendu 5 heures. Le premier plat, avec un type prétentieux qui m'expliquait que c'était de la grande cuisine japonaise, que c'était normal d'attendre.
Vous avez de la patience.
J'ai eu la patience d'attendre, attendre pour être déçu, bien sûr.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer?
Mais écoutez, j'ai tellement entendu parler des ortolans. C'est interdit, mais bon, écoutez, on peut s'arranger.
Oui, mais c'est vrai que Michel Guérard, un de nos plus grands chefs cuisiniers, milite pour qu'on puisse manger l'ortolan simplement un jour par an en France. Mais c'est une vraie tradition, enfin c'était une vraie tradition autorisée dans le sud-ouest. Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Christophe Bourseiller?
Un plat que j'aime énormément, c'est les spaghettis à la boutargue. Moi je me mens vraiment...
Très tendance en ce moment, c'est pareil, qu'on utilise.
Moi je peux vous dire que je l'aimais avant.
Poisson séché,
je ne suis pas pour la tendance, mais là j'ai envie de vous dire, pour une fois qu'il y a un beau produit qu'on a boutard, c'est des produits d'exception qu'il faut goûter une fois dans
sa vie. Il y en a plusieurs, il y a celle d'Italie, celle de Martigues, celle de Corse, elles sont différentes aussi, elles ont des goûts différents.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Alors moi, ce que j'aime, c'est faire se réunir des gens qui ne se connaissent pas. J'aime être l'entremetteur, le go-between. J'aime être celui qui dit Yves, je vous présente Laurent, Laurent, Yves. Vous voyez, il est dans la cuisine, vous aussi. Vous voyez, j'aime ce pour moi, c'est ça, un bon repas.
Mettre en relation des gens qui n'avaient pas forcément...
Qui ne se connaissent pas.
Je veux que les gens se connaissent pas. Au début, oui, absolument.
C'est un club de rencontre.
Le mot de la fin, F-I-M?
Écoutez, moi, pour moi, c'est une citation de Montaigne parce qu'elle m'a accompagné depuis mon plus jeune âge, que j'ai appris à l'école quand j'étais en seconde, l'intempérance est peste de la volupté. Parce que c'est ça quand on mange, vous voyez. Le vin, c'est génial, mais si j'en bois 4 bouteilles, au fond, je vais devenir une épave. Et tout est là. Donc,
l'équilibre.
Voilà.
On peut être bon vivant et raisonnable.
Fuyons la tempérance.
Et,
et carpe diem.
Eh bien, merci Christophe Bourseiller d'être venu à cette table. Merci Olivier Pouls d'avoir été avec nous à distance. Vous serez avec nous la semaine prochaine. Je suppose que vous avez bu les paroles de Christophe Bourseiller depuis votre Bourgogne.
Non seulement je les ai bues, mais vous m'avez donné faim. Vous n'avez même pas idée.
Merci Yves Condebord.
Merci à tous.
Merci à toute ma bande de m'avoir aidé à préparer cette belle émission. Merci Christophe Bourseiller. Je rappelle votre roman,
merci
Cherchant Parvu Lescot, aux éditions La Table Ronde. C'est le week-end, faites le marché, la cuisine. On se retrouve la semaine prochaine avec la bande. Bon week-end sur Europe 1.